Vous êtes sur RTL. Jusqu'à 10h sur RTL, nous voilà bien avec Flavie Flamand.
Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. On a attendu ce jour toute la semaine. Ça y est, c'est le week-end. On est samedi matin et nous voilà bien. Commence enfin. Je vous espère en forme et masquée, cela va sans dire. En tout cas, nous, on est heureux de vous accompagner de 9h15 à 10h sur RTL et en avant Guingamp. Depuis plusieurs mois maintenant, on a deux meilleurs potes que l'on trimballe partout ou presque avec nous. Ils ont presque détrôné le portable, j'ai nommé le masque et le gel hydroalcoolique. Mais doit-on s'inquiéter pour notre peau? Dans un instant, le docteur Laurence Netter, dermatologue spécialisé en dermatologie esthétique et laser, va nous délivrer ses précieux conseils. On aime les offrir, on aime les recevoir. Les fleurs font toujours leur petit effet, mais connaît-on leur provenance et sait-on comment les choisir? Eh bien, pas si sûr. Pierre Nasman, paysagiste de formation, rédacteur en chef de l'émission Mission Végétale sur M6 va nous donner toutes les infos. Coquillettes, jambon, purée, croque-monsieur, pain perdu, les plats régressifs ont la cote. On replonge dans les saveurs de l'enfance avec Ligori Lecomte, chef du site cuisineaz.com et auteur culinaire. Ça fait plusieurs mois quand même qu'on est au bal masqué. C'est un petit peu moins joyeux que la chanson de la compagnie créole. Docteur Laurence Netter, bonjour.
Bonjour Flavie.
Merci d'être avec nous ce samedi matin. Docteur, vous êtes dermatologue, je le disais, spécialisé en dermatologie esthétique et laser. Alors, on s'interroge tous et d'ailleurs on a tous l'impression que notre peau change depuis le port du masque. Est-ce qu'effectivement ce fichu et en même temps indispensable bout de tissu ou autre masque jetable a un impact sur notre peau?
Oui, puisqu'on vit quand même en milieu clos, un petit peu derrière le masque, mais dans la très 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 grande majorité des cas, ça change pas grand chose. La peau, c'est un organe qui a une fonction. C'est une fonction barrière et c'est très résistant. Avec le masque, cette barrière, elle est un petit peu altérée. On peut avoir des petites irritations, par exemple au point de friction, mais dans la très grande majorité des cas, notre peau, heureusement, est résistante et on peut très bien supporter le masque.
Alors, tout dépend peut-être, pardonnez-moi, mais de notre type de peau et puis de notre âge. J'ai un fils adolescent qui a le sentiment que le masque n'a pas arrangé ses petites...
Son acné.
Poussées. Exactement.
Votre fils a raison, oui, parce que dans l'acné, les pores de la peau sont bouchés par du sébum et indiscutablement, il y a un genre de microclimat derrière le masque, la température augmente, il y a une petite modification du pH de la peau et les pores ont tendance à se boucher. Quand les pores se bouchent chez un adolescent qui a déjà un petit peu d'acné, ça augmente l'acné. Disons que ça ne crée pas de nouvelles pathologies, mais que le masque a tendance à augmenter une pathologie préexistante, l'acné en premier, les eczémas, la rosacée qui est une maladie vasculaire, donc quand la température augmente, on a des petites poussées, la dermatose séboréique, mais ça ne crée pas, sauf des petites irritations au point de friction, ça ne crée pas de nouvelles pathologies.
On enlève tous notre masque à un moment donné dans la journée et on a l'impression que notre peau est un peu luisante. Est-ce à dire qu'elle est plus grasse?
Oui, elle est plus grasse, exactement. Comme la température augmente, on sécrète du sébum, ça s'évapore assez mal. Donc, ce qu'on peut conseiller, par exemple, c'est de l'enlever à certains moments de la journée, d'avoir une petite bombe d'eau micronisée, puis de faire diminuer la température en pulvérisant de l'eau que l'on sèche juste après.
Et pourquoi on ne peut pas la laisser, l'eau? C'est parce que ça assèche la peau?
Ah, oui, exactement. Quand on laisse de l'eau sur la peau, ça fait un petit peu éclater les cellules. Ça a un effet plutôt déshydratant qu'autre chose. Donc, il faut pulvériser pour refroidir et sécher avec un Kleenex. Et puis ensuite, on remet gentiment son masque.
On pourrait s'intéresser aussi en ce moment au marché du cosmétique, parce qu'on a vraiment le sentiment que le masque est venu le bouleverser. Les femmes se maquillent moins. Néanmoins, certaines aussi portent toujours leur maquillage, de la poudre, du fond de teint. Est-ce que vous déconseillez justement de vivre masqué en étant maquillée?
Oui, alors d'abord, ça sert pas à grand-chose parce que on voit pas votre joli maquillage.
Autant faire que les yeux, quoi.
Épais, voilà. On va conseiller aux auditrices d'en mettre un petit peu plus sur les yeux et un petit peu moins sur la peau. Ça fait encore effet barrière, ça augmente encore la moindre respiration de la peau, donc il faut vraiment choisir des crèmes légères, hydratantes mais un petit peu allégées, éviter les fonds de teint couvrants, épais, recouverts en plus de poudre pour favoriser Et puis le rouge à lèvres, ça ne sert pas vraiment à grand-chose. On va en mettre au moment où on va enlever son masque. On va le réserver aux ambiances familiales, on va dire.
Alors, passons au gel hydroalcoolique, si vous le voulez bien. Parce que ça nous fait tous un petit peu flipper. On entend plein de trucs au sujet de ce gel. On doit s'en servir, je ne sais pas, 50 fois dans la journée. Il est composé de quoi, d'ailleurs ?
Alors, ça, c'est une bonne question. Le gel hydroalcoolique, il est composé essentiellement d'alcool. Il en faut 60 à 80%, associé à un émollient, qui est souvent de la glycérine, pour éviter d'être trop desséchant, et à un antibactérien. Un bon gel doit contenir au maximum 4 ingrédients. Ce sont des formules excessivement simples.
Donc, effectivement, dès qu'on voit sur une étiquette une formule compliquée, on se dit que c'est pas...
Il faut baigner. Okay. Et surtout les huiles essentielles. Souvent, on voit sur Internet des petits fabricants. Mais oui, parce que les huiles essentielles, ça peut être photosensibilisant. On en a vu cet été, des personnes se laver à la plage, même avec des gels hydroalcooliques achetés un petit peu comme ça sur Internet, et faire des photosensibilisations. Donc, il faut vraiment le minimum d'ingrédients, des ingrédients simples. Et en dehors d'un effet desséchant, il ne se passe pas grand-chose. Hein.
C'est quoi une photosensibilisation, Laurence Nettel?
Ah, une photosensibilisation, c'est un produit qui, mis sur la peau, augmente les effets du soleil. Donc, c'est en fait une brûlure. Voilà, ça craint. Or, les végétaux sont très photosensibilisants. Il y a des plantes, donc les huiles essentielles, c'est du végétal concentré. Donc, vous mettez une huile végétale sur la peau, vous vous mettez directement au soleil après, ben vous faites une brûlure. Donc, on évite des produits qui contiennent des huiles essentielles pour rester vraiment aux formules classiques, alcool, émollient, antibactérien, éventuellement, acheter en pharmacie, en grande surface. Il n'y a pas de problème particulier.
Alors, encore quelques questions à vous poser. Ce sera dans un instant au sujet du gel hydroalcoolique. Et puis ensuite, alors, j'aurai le plaisir de recevoir un homme qui m'offre des fleurs. Désolé, hein, Laurence Nettel. Hein. C'est mon tour aujourd'hui d'avoir des fleurs.
C'est une
image,
hein.
À tout de suite sur RTL.
Nous voilà bien sur RTL avec Flavie Flamand.
Vous souvenez-vous des plats de votre enfance? Quand vous les cuisinez, ça vous fait quel effet? À la fin de l'émission, Ligori le Comte va revenir justement sur ces recettes incontournables traditionnelles qui nous font battre le cœur et les souvenirs. Pierre Nesman viendra nous parler des fleurs. On y a une grande tendance aujourd'hui des fleurs, mais d'où proviennent-elles? Fleurs séchées, fleurs coupées, fleurs en pot? Il nous racontera ça dans un instant, mais pour l'heure, on s'occupe de notre peau justement. Avec donc le docteur Laurence Nettel, vous nous livrez des conseils précieux, docteur Nettel, en cette période où, je le disais, hein, le gel hydroalcoolique et le masque ont presque détrôné notre téléphone portable. En tout cas, ils sont toujours à portée de main, à portée de peau. Et c'est à cette peau que l'on s'intéresse. Vous nous avez livré des conseils sur le masque il y a un instant. On est maintenant sur le gel hydroalcoolique. On a compris qu'il faut une formule simple, surtout pas d'huiles essentielles. Est-ce qu'il a des effets secondaires sur la peau, même quand il est simple, même quand il s'agit de celui que vous nous conseillez?
Oui, l'alcool, c'est un gros potentiel déshydratant. Et donc, on voit des personnes qui se lavent les mains avec du gel hydroalcoolique 10-15 fois par jour et qui ont les mains complètement desséchées. Donc, ce qu'il faut, c'est utiliser entre deux nettoyages de peau, surtout quand on est chez soi, des crèmes hydratantes. Et puis quand on fait la vaisselle, il faut bien protéger ses mains avec des gants. Il faut être encore plus cocooning que d'habitude avec ses mains.
Mais est-ce que c'est cancérigène, docteur?
Ah non, cancérigène, pourquoi?
Bah parce qu'on entend plein de trucs au sujet du gel hydroalcoolique et on entend qu'à un moment donné, effectivement, on sait à quel point la peau, et vous nous le dites hein, régulièrement sur cette antenne, est un filtre et en même temps laisse passer beaucoup de choses. Et tout le monde a peur, à un moment donné, de se créer une maladie.
Non, non, il n'y a absolument aucun risque de développer un cancer. Les chirurgiens se lavent avec du gel hydroalcoolique. Ils ont maintenant quasiment toute cette habitude. On se lave beaucoup moins les mains au bloc opératoire avec de l'eau et du savon. C'est beaucoup plus rapide avec du gel hydroalcoolique. Ou alors, ils font les deux. On n'a pas signalé d'augmentation de cancer chez les chirurgiens, par exemple. Donc, vraiment, c'est un faux débat. Il n'y a absolument aucune inquiétude à avoir.
Et c'est indispensable, en plus, en ce moment. Mais quand on a le choix entre le gel hydroalcoolique et le savon, qu'est-ce qui est le mieux?
C'est pas du tout le même principe d'action. L'alcool, lui, est un actif qui diminue le portage de germes sur la peau, c'est-à-dire des bactéries, des virus et des champignons. Le savon, ça n'a strictement rien à voir, ça fait une émulsion entre le savon et les salissures de la peau, c'est un lavant. C'est un produit qui va nettoyer la peau au rinçage, les cellules mortes, les bactéries, le savon, tout ça par à l'eau. Par exemple, des massages ne se lave pas avec un gel hydroalcoolique. On commence par se laver les mains avec de l'eau et du savon. Ensuite, on peut mettre du gel hydroalcoolique. Mais le gel hydroalcoolique n'est pas un nettoyant. Si on rentre chez soi de l'extérieur, moi, je préfère laver les mains avec de l'eau et du savon. C'est moins déshydratant. Si on n'a pas d'eau à proximité, c'est pour ça que le gel hydroalcoolique dans la rue, c'est ce qu'il y a de plus pratique. Mais on peut combiner les deux. Les deux ont la même efficacité. C'est le côté pratique.
Ah bah voilà, parce que tout le monde me trouve parfois un petit peu folle en me lavant les mains d'abord au savon et ensuite en mettant du gel hydroalcoolique. On me dit, t'es en train
Bah voilà. Non, vous enlevez les saletés.
Voilà.
Vous enlevez vos saletés et ensuite vous enlevez les germes qui sont sur la peau. Il n'y a pas de problème.
Eh bien, je vous remercie justement pour ce bon point. Et figurez-vous, je vous le disais un instant, c'est qu'il y a un bouquet de fleurs dans ce studio. Je suis tellement contente. Alors, j'ai un bon point avec vous parce que je fais bien les choses. Et dans un instant, justement, on va parler fleurs avec notre invité Pierre Nesman. Je vous remercie beaucoup, docteur Laurence.
Merci Netter. Beaucoup, Flavie. Et puis, bon week-end.
Et à très bientôt, j'espère, sur RTL. Merci beaucoup. Au revoir,
allez,
Laurence Netter.
Au revoir.
Contente en ce samedi matin. Bonjour Pierre Nesman.
Bonjour Flavie.
Mais dis donc, vous, j'allais dire un inconnu vous offre des fleurs, mais vous n'êtes pas un inconnu.
Pas, non,
on vous a déjà
inconnu.
Entendu dans cette émission. Merci d'être avec nous. Vous êtes paysagiste, vous êtes rédacteur en chef adjoint de Rustica Pratique et puis vous êtes rédacteur en chef de l'émission Mission Végétale diffusée sur M6. C'est très gentil et très joli ce bouquet. On y retrouve des fleurs de saison. C'est ça, on va le retrouver sur les réseaux de Nous Voilà Bien.
Exactement Flavie. J'ai vraiment fait le choix de fleurs de saison.
Merci.
Puisque aujourd'hui, c'est une des grandes tendances, c'est d'offrir des fleurs qui ont un circuit court et qui sont des productions locales, effectivement.
Bah, c'est vrai que quand on achète des fleurs coupées, on ne se pose jamais la question de savoir d'où elles viennent.
Oui, effectivement. Et c'est vrai que pendant très longtemps, les fleurs viennent, et encore aujourd'hui, certaines fleurs viennent de très très loin. En France, on a une production qui est assez limitée, puisque la production, on peut reparler un petit peu de l'histoire, mais c'est vrai qu'après la guerre, il y a eu des grandes régions de production, et notamment la Côte d'Azur, avec production de roses, production de lys, de haies, et puis progressivement, avec effectivement la crise du pétrole, eh bien, ces productions ont disparu, parce que ça devenait beaucoup trop cher à produire. Et on a délocalisé ces productions, alors d'abord dans les Pays-Bas, et puis aujourd'hui, on est plutôt sur le continent africain et sur le continent américain, Amérique du Sud, qui sont les gros producteurs de fleurs.
Donc ça veut dire qu'il est rare qu'on ait des fleurs françaises, en fait, dans nos vases ?
Non, pas du tout, puisqu'aujourd'hui, la grande tendance, on est en train de revenir
un petit peu. On se responsabilise, on devient acteur de notre consommation.
Voilà, on est en train de revenir un peu en arrière, et en fait, les 15% des fleurs que l'on achète chez un fleuriste proviennent de France. Alors évidemment, ça reste très minime, hein, puisque 85% en tout viennent et de France et des Pays-Bas. Mais sur ces 15%, on considère qu'environ une trentaine de pourcents viennent d'une production très locale, une vingtaine de kilomètres autour de l'exploitation. C'est moins courant, effectivement, en milieu urbain parce que les zones de production sont plus éloignées. On a 30% qui proviennent d'un rayon qui fait environ 200 kilomètres au niveau régional. Et enfin, on a 40% qui proviennent du niveau national, donc qui sont des productions françaises.
Bon, c'est bien. Donc, il faut se renseigner autour de chez soi. Il faut peut-être aller voir son fleuriste en lui demandant d'où viennent ses fleurs.
C'est vrai que le fleuriste de quartier est celui avec qui on peut avoir un échange beaucoup plus facile, qui connaît, qui achète ses fleurs, qui sait exactement d'où elles viennent. Et du coup, contrairement à des chaînes de magasins ou à des grandes surfaces où vous avez des rayons, tout ça c'est un peu uniformisé, le fleuriste de quartier va vous donner effectivement l'origine. Et très souvent, ceux qui sont aujourd'hui dans cette tendance de circuit court, un peu responsable et d'éco-citoyen, eh bien, va vous dire voilà, je vais chercher mes fleurs chez un producteur qui n'est pas très loin de là où je suis.
Est-ce qu'il existe des labels ?
Absolument. Alors il y a un label qui s'appelle Fleurs de France. Il a été créé en 2015 par l'association Valor, qui est une association qui fédère l'ensemble de la filière horticole. Fleurs de France, c'est un petit logo très facilement reconnaissable. Il est bleu, blanc, rouge. Il y a l'hexagone de la France, donc on voit très, très
normalement,
bien.
Normalement, on ne devrait pas se planter.
On ne devrait pas se planter. Et donc ça, c'est intéressant parce que ça prouve que les fleurs coupées, les plantes en pot, la pépinière provient d'une pépinière ou d'un établissement horticole français, depuis la production jusqu'à la collecte et la cueillette.
On va se retrouver dans un instant, Pierre Nesman, si vous le voulez bien. On va continuer justement à parler du pouvoir des fleurs, comme le chantait Laurent Voulzy. La suite de Nous Voilà Bien, bah écoutez, c'est là, c'est maintenant sur RTL.
Nous Voilà Bien sur RTL, avec Flavie Flamand. Flavie Flamand sur RTL, Nous Voilà Bien.
Dans un instant, on va replonger en enfance avec Ligori Lecomte, qui est chef et qui va nous parler de ses plats régressifs. C'est vrai, ça nous fait perdre 20-30 ans parfois quand on en sent tout juste l'odeur. Mais pour l'heure, on parle de fleurs sur RTL.
Un bouquet de fleurs à la main, il sort du magasin, il avance de bon cœur.
donc cette humeur qui porte un L'homme au bouquet de fleurs de Maxime Le Forestier aujourd'hui. L'homme au bouquet de fleurs, c'est Pierre Nesman qui a eu la gentillesse, la délicatesse de venir avec de très jolies fleurs dont vous me disiez donc qu'elles étaient de saison. Ça veut dire, Pierre Nesman, que c'est un peu comme les fruits et légumes. Il y a des saisons aussi côté fleurs.
Exactement, il y a des saisons. On l'a un petit peu perdu, hein, ce rythme des saisons, parce qu'avec l'uniformité, la mondialisation, on va trouver des roses, on va trouver des fleurs pratiquement toute l'année. Mais c'est vrai qu'on peut associer les fleurs qu'on va trouver chez les fleuristes aux fleurs que l'on va trouver dans les parcs et les jardins. Alors le printemps, c'est les bulbes, les tulipes, les narcisses. Ensuite, on a les anémones. Ensuite, on va voir le muguet le 1er mai. Ouais. Et donc, toute l'année, comme ça, elle est ponctuée de fleurs. L'été, c'est les dahlias, les reines marguerites, les glaïeuls. Et puis l'automne, on va vers les asters et éventuellement les chrysanthèmes, puisqu'on approche de la Toussaint. Aujourd'hui, on retourne vers cette saisonnalité. Autant, il y a quelques années encore, on avait des roses toute l'année. On voulait des roses toute l'année. Bah, la rose, chez nous, c'est uniquement pendant l'été. Et les fleuristes font attention, justement, de proposer un choix de plantes liées, justement, à cette production locale. Et la production locale en France, elle est très liée à la saison. Et donc, on va trouver des fleurs de saison.
Vous parliez, justement, des chrysanthèmes avec la Toussaint. Vous parliez du muguet avec le 1er mai. Et puis, alors, sans parler de la Saint-Valentin, évidemment, au mois de février. Est-ce que le prix de la fleur dépend aussi du calendrier des événements?
C'est vrai que les fleuristes n'ont pas tendance à augmenter les prix. Les prix sont toujours les mêmes. Ils auraient plutôt tendance à peut-être faire baisser les prix en dehors de ces périodes-là. Mais c'est vrai que sur ces périodes, la fête des mères, la Saint-Valentin, la fête des grands-mères, vous avez vu, c'est une fête assez récente, les grands-mères, finalement. Alors moi, je voudrais prendre la défense. C'est vrai que ça peut paraître, pour le commun des mortels, un peu mercantile et un peu commercial. Je vais prendre la défense des fleuristes et des horticulteurs, parce que moi-même, je suis fils d'horticulteur. Et c'est vrai qu'on a besoin, parce que la fleur, c'est un produit vivant et c'est un produit futile. Et dans le panier de la ménagère, c'est la première chose qu'on supprime. Et du coup, quand les fleuristes et les horticulteurs n'ont pas ces saisons, ces rendez-vous qui leur assurent un certain chiffre d'affaires, qui va leur permettre de voir venir et de pouvoir continuer à faire vivre leur exploitation. Et moi, je me souviens très bien de mes parents. Eh bien, on sortait de Noël et on pouvait aller, grâce aux ventes de fleurs de Noël, jusqu'à la fête des mères. De la fête des mères à la fête des mères permettait de passer l'été. Et c'est très important. Donc, c'est vrai que ça peut paraître un peu mercantile pour nous qui achetons des fleurs, mais pour les horticulteurs, pour ceux qui produisent les fleurs, et notamment en France, pour les fleuristes, c'est extrêmement important d'avoir ces rendez-vous.
Le message est passé, Pierre Nesman. Vous savez pourquoi parfois aussi les foyers renoncent au budget fleurs? C'est parce que ça ne dure pas très longtemps. Comment est-ce qu'on peut faire durer un bouquet de fleurs coupées le plus longtemps possible?
La fleur coupée, il faut savoir que c'est des tiges qui ont été sectionnées, donc séparées des racines, qui sont les organes qui vont alimenter la plante. Quand vous recevez un bouquet, la première chose, c'est de couper la base des tiges. Parce qu'en fait, les tissus se sont déshydratés, ils ne vont pas pouvoir absorber l'eau qui est dans le vase.
En biseau ?
En fait, plus la surface d'absorption est grande, mieux c'est. Donc c'est pour ça qu'on fait un biseau. Dans certaines espèces, notamment les lilas, on va même écraser avec un marteau les tiges pour créer des zones d'absorption encore plus importantes. Ensuite, on va mettre de l'eau fraîche, bien entendu. On va enlever les feuilles pour éviter qu'il y ait des feuilles qui trempent dans l'eau parce que ça va souiller l'eau. Et on va remplir le vase de manière à ce que les tiges soient à moitié dans l'eau par rapport à leur longueur. Et on va aussi éventuellement utiliser un engrais liquide. Souvent, les fleuristes vous donnent un petit sachet.
C'est bien ça?
Oui, ça permet à la plante d'absorber quelques éléments nutritifs en plus de l'eau qui vont lui permettre de subvenir à ses besoins. Placer le bouquet à la lumière, placer le bouquet pas en situation trop chaude, pas en situation non plus trop froide, il faut que la température soit constante, et puis pas au courant d'air. Et puis ce qu'il faut faire après avec l'entretien, c'est régulièrement, si on peut tous les jours, voire tous les deux jours, couper de nouveau la base de ces tiges, changer l'eau bien entendu, et votre bouquet, il va durer alors entre 8 jours jusqu'à 15 jours.
C'est bien ça. Quand, c'est 15
vraiment...
jours, on est content.
Voilà,
15
jours, c'est déjà pas mal. Mais ça peut se faire quand vous utilisez des plantes locales, avec effectivement un circuit court. Vous avez des plantes qui vont durer beaucoup plus longtemps si vous en prenez soin.
Certains préfèrent les plantes, les fleurs en pot.
Oui, alors vous avez vu l'effet que j'ai fait avec mon bouquet en arrivant dans le studio.
Ah, ça m'a beaucoup touché. J'adore. Voilà. J'avais très envie de recevoir des fleurs aujourd'hui.
C'est extraordinaire, mais plutôt éphémère, parce que dans 15 jours, vous m'aurez oublié puisqu'il va faner le bouquet.
Non, je vous aurais
pas
oublié.
En revanche, si je vous avais offert par exemple une plante fleurie, vous l'auriez emmené chez vous, tous les jours vous l'auriez arrosé, et puis dans un mois, deux mois, trois mois, vous l'auriez toujours eu. Et c'est très souvent ce qui se passe quand une grand-mère reçoit une orchidée de la part de ses petits-enfants. Elle se souvient, elle vous dira, il y a deux ans, c'était ma petite fille qui m'a offert cette orchidée, regardez, j'ai réussi à la faire fleurir. Donc la plante en pot a cet aspect pérenne, durable, que le bouquet n'a pas, mais le bouquet effectivement a un effet waouh, spectaculaire, qui est assez impressionnant.
Dernière question, grosse tendance, la fleur séchée.
Ça c'est une des tendances, c'est très désuet, puisque autrefois c'était associé à nos grand-mères, à des intérieurs un peu vieillots. Ça revient à la mode et surtout, ça revient à la mode dans la continuité des fleurs que l'on utilise en fleurs fraîches. On peut faire sécher des roses, on peut faire sécher des pivoines, on peut utiliser, et là je vous ai apporté des statis, des immortelles, qui sont des plantes que l'on va, après les avoir utilisées en bouquet, les faire sécher, c'est-à-dire qu'on les met quelque temps tête en bas, de manière à ce que la sève descende vers la fleur.
Okay.
Et ensuite, vous allez pouvoir reconstituer un bouquet de fleurs séchées.
Alors, je les mets à sécher. C'est
pas
important
toutes.
Pour ceux qui nous écoutent.
Pas toutes.
Alors, d'accord. Donc, je choisis...
Alors, les pivoines, les roses. Vous avez des statistes dans ce bouquet qui peuvent le faire. Ce sont ces petites fleurs roses.
Mais je les mets pas trop tard. J'attends pas que le bouquet soit abîmé,
alors,
en fait.
Quand les fleurs commencent à faner, vous enlevez les fleurs qui sont vraiment fanées et qui vous paraissent complètement mortes. Et vous gardez celles qui ont encore un peu d'aspect. Vous les sortez de l'eau, vous les faites sécher, vous les attachez, vous les mettez tête en bas pendant 8 à 10 jours.
Ma grand-mère le faisait dans l'obscurité.
Oui, voilà, à l'obscurité. Et d'accord. Ensuite, elles vont se sécher, elles vont se momifier quelque part. La couleur va peut-être un tout petit peu passer, mais ça donne un côté un peu charmant. Et là, vous allez pouvoir recomposer un bouquet plus petit. Mais si vous en faites plusieurs, vous allez avoir un gros bouquet sec.
Vous voyez que je penserai à vous.
Et ben
ça
voilà.
Va durer plus longtemps que prévu. Merci beaucoup, en tout cas, Pierre Nesman. Merci pour ces fleurs et à très bientôt sur RTL. Je rappelle donc que vous êtes rédacteur en chef adjoint de Rustica Pratique, qu'on vous retrouve sur M6 dans Mission Végétale. Et puis votre livre, Le potager de père en fils, aux éditions de Lachaud Niesley. Vous aviez un plat comme ça de votre enfance, un plat un peu régressif?
Un gratin de coquillettes avec du jambon et du fromage par-dessus.
Mais vous aussi? C'est voilà. Incroyable! Eh bien, on le retrouve juste dans un instant sur l'antenne d'RTL. Merci Pierre Nesman pour ces fleurs.
Flamand.
À bientôt sur RTL.
Nous voilà bien sur RTL avec Flavie Flamand. Flavie Flamand sur RTL. Nous voilà bien.
Et vous, c'était quoi le plat de votre enfance?
Te raconter un peu comment j'étais minot, et bon bec fabuleux. Compliqué chez le marchand, car en sac et minto, caramel à un franc, et les Mistral gagnants.
Ambiance nostalgie sur RTL, mais gourmande aussi, avec vous Ligori Lecomte. Bonjour Ligori.
Bonjour Flavie, bonjour à tous.
Merci d'être avec nous, bienvenue sur RTL. Vous êtes chef du site cuisineaz.com, vous êtes également auteur culinaire. C'est fou parce qu'on a fait un petit sondage en préparant cette émission. Ces fameux plats doudous, on l'a tous notre plat doudou. En fait, c'est parce que c'est fait avec amour.
Ah bah c'est ça, il y a tellement d'amour dedans qu'on ne pourra pas les oublier. Et puis c'est vraiment pour retrouver cette position un petit peu fétale, vous voyez, tout ce qui a bercé notre enfance, c'est vraiment super rassurant.
Vous savez, moi je me fais des plats doudous certains soirs quand je rentre, que je suis épuisée, que je suis fatiguée. De lendemain de fête aussi, parfois je fais un plat doudou, ou quand je suis malade. On se les réserve toujours pour des moments un peu particuliers?
Oui, bah c'est ça en fait, là on va vraiment oublier tout ce qui va être espuma, zeste de yuzu et lait végétal, vous voyez, tout ça c'est des termes qui sont énergiques pour le cerveau, ça pète dans tous les sens. Là, c'est vraiment le but, c'est vraiment tout l'inverse, comme vous l'avez dit, c'est de retrouver un petit peu ce réconfort, cette petite bulle autour de nous. Et c'est vraiment le but recherché avec ces plats voilà, doudous et rassurants.
On a passé à la cuisine régressive. En plus, c'est tendance. Comment est-ce qu'on explique ça? On deviendrait un peu nostalgique?
Alors, c'est super tendance. Bon, bah, forcément, on sort d'une période de confinement qui est un petit peu complexe et inédite. Donc, on était tous très pressés de retrouver nos proches, forcément, tout ça, ça rapproche. Et puis, qu'est-ce qui rassemble le mieux que la cuisine aujourd'hui? Je pense qu'on n'a rien inventé de mieux pour rassembler les hommes, en tout cas. Donc, en plus, si c'est régressif et ça nous fait retomber sur des souvenirs d'enfance, c'est encore mieux.
Est-ce qu'on a tous les mêmes plats régressifs, selon vous?
Alors non, et heureusement, on va pouvoir retrouver parfois les mêmes dans une même fratrie, par exemple. Je pense, moi, par exemple, avec mes parents, le cordon bleu ou poisson pané avec de la purée, vous savez, on faisait un petit volcan avec le beurre fondu débordait de cette petite montagne. Et ça, voilà, c'est un truc qui, en tout cas, a marqué moi, mon frère, ma sœur, mais d'autres familles auront forcément d'autres plats régressifs, ça c'est sûr.
Alors, on a le gratin de pâtes au jambon. Moi, c'était le poulet que faisait tous les dimanches ma grand-mère, toujours un poulet rôti avec des frites. Et un jour, je suis allée la voir, j'ai dit, mais pourquoi tu fais toujours ce poulet rôti avec des frites? Et elle me répondait, c'est pour fabriquer des souvenirs. Et effectivement, aujourd'hui, tout à coup, le simple parfum du poulet rôti me replonge dans cette enfance. Alors, on n'a pas tous les mêmes plats régressifs, on l'aura bien compris, mais moi, j'ai quand même l'impression que c'est toujours de la cuisine familiale.
Alors ça, c'est sûr. Ça sera de toute façon quelque chose qui va se partager. Là, je pense que personne ne vous répondra que son plat régressif, c'est une petite verrine tomate confite et émulsion de thon, ça c'est sûr et certain. C'est toujours quelque chose qui est généralement plutôt riche et qui va jouer sur notre morale, mais qui avant tout se partage en famille surtout.
Vous savez, ce que je me dis, c'est qu'en plus on les transmet à nos enfants et à nos petits-enfants.
Bah oui, c'est vraiment ça aussi le but, c'est de le transmettre, de distribuer un petit peu ce patrimoine culinaire. Mais après, voilà, vraiment, chacun aura son plat. Peut-être que la prochaine génération trouvera son réconfort dans les macarons, vous voyez, qui aura peut-être marqué une génération. Et peut-être que la génération d'après, ce sera encore autre chose. Et bon, c'est aussi ça, le plaisir de la cuisine, c'est que chaque génération, ça reviendra un jour, ça va évoluer et changer au fil des ans.
Et c'est de la cuisine simple. On se prend pas la tête pour faire cette cuisine-là.
Ah, c'est de la cuisine vraiment hyper simple. Hein. Moi, j'ai encore en tête le petit bouillon de poule de mes parents, vous savez. Donc, on mangeait la poule au poule midi. Et puis, le soir, on récupérait le bouillon qui était un petit peu gras avec quelques légumes. On le refaisait chauffer. Et puis, alors, on y mettait soit des petits vermicelles ou encore mieux, les petites pâtes alphabées, vous savez. Donc, c'était vraiment le bonheur. Et alors, voilà, c'est pas de la cuisine qui était très, très compliquée. Mais c'est quelque chose qui marque, en tout cas, et puis qui rassure une fois qu'on les retrouve.
Alors, vous êtes bienvenue avec des petites recettes quand même, Ligori Lecomte, là. Parce que moi, je sais ce que je fais ce week-end hein, maintenant. Hein. Demain, c'est poulet frites, déjà. Mais quelles sont les recettes que vous pouvez nous conseiller et qu'on retrouvera sur les réseaux de Nous Voilà Bien?
Alors là, vraiment tout simplement, je suis venu avec plusieurs petites recettes. Vous allez pouvoir même choisir, si vous voulez, Flavie. Hein. Donc, ce petit bouillon gras, si vous voulez aller un petit peu plus loin. Les croque-monsieur, alors ça, on n'en a pas parlé, mais c'est aussi forcément un plat qui revient chez beaucoup de monde quand on parle de cuisine régressive. Mmh. Je pense aussi à la tarte aux pommes, vous savez, qui caramélise un petit peu dans le four, qui embaume un petit peu la maison. Et puis, il y a aussi un plat que je ne fais jamais. Alors, pourtant, c'est pas le plus compliqué du monde, mais c'est les lasagnes. Vous savez, les lasagnes, moi, de maman, ça devient un graal, vous savez, parce que je sais déjà que je vais pas pouvoir faire aussi bien. Mmh, du coup, c'est un plat que je ne fais vraiment jamais.
Alors, les recettes que vous pouvez nous donner. Tiens, je pense au croque-monsieur. Vous savez que moi, je suis pas foutue de faire un croque-monsieur.
Ah, bah, écoutez, c'est vraiment très, très facile. Hein. Je peux même vous donner deux petites versions. À la maison quand j'étais plus jeune. Donc, vous allez prendre un pain de mie, sur laquelle donc maman est allée du beurre sur les deux tranches. Ensuite, vous allez y mettre un petit peu d'emmental râpé. Et alors là, maman nous laissait le choix. C'était soit une tranche de jambon, soit des petites saucisses de Strasbourg coupées en deux dans la longueur, qu'elle nous laissait donc choisir avant de les mettre dans son petit appareil à croque. Et puis alors là, bon là, c'est pareil, hein, c'est l'assurance, un dimanche soir assuré, vraiment réconfort et chaleureux, parce que vous n'avez pas grand-chose à préparer, c'est assez rapide à faire en cuisson, vous mettez devant la télé et la soirée est partie. Quoi.
La tarte aux pommes?
Pareil, donc à la maison, maman, c'était pas forcément sa tasse de thé de faire la pâte elle-même, donc la petite pâte feuilletée, pur beurre qu'elle avait achetée. Ensuite, avec la moitié des pommes, elle réalisait une petite compote avec un petit peu de beurre qu'elle faisait vraiment cuire au moins une demi-heure. Et puis une fois que ça avait bien ramolli, elle écrasait tout ça, elle mettait un petit peu de cannelle qu'elle étalait au fond de sa pâte feuilletée. Et puis ensuite, d'autres pommes coupées voilà finement cette fois-ci pour faire une jolie rosace. Et puis ensuite, on réenfourne avec un petit peu de sucre dessus, quelques carrés de beurre hein, encore et toujours. Et puis vous enfournez ça à 180 degrés pendant environ, on va dire, une demi-heure selon vos fours. Et puis là, bah, pareil, ça va vraiment embaumer la cuisine, mais pas que, toute la maison. Et vous n'avez plus qu'à attendre que ça sorte du four. Et puis à manger surtout, ça c'est très important, manger tiède hein, surtout. Ouais. Vraiment, presque la sortie du four, c'est encore mieux.
Et la Normande que je suis va vous conseiller une bonne crème fraîche sur le côté. Quoi. Et alors, on reste dans le sucré. Dernière recette, le pain perdu.
Alors le pain perdu, voilà, très réconfortant aussi. Nous, à la maison, on le faisait aussi bien sucré que salé. Vous savez, on faisait vraiment complètement un repas avec, et puis dessus, on pouvait mettre du fromage ou du jambon ou autre dessus. Mais donc là, il vous faudra un pain vraiment bien rassis. Vous allez battre un œuf avec un petit peu de lait, un petit peu de sucre si vous faites la version sucrée. Mais si vous faites en version salée, voilà, juste votre œuf avec votre lait. Mmh. Vous allez imbiber votre pain dedans. Voilà, avec le verso, pendant une minute, on va dire, de chaque côté, pour qu'il soit bien, bien imbibé. Et puis alors ensuite, dans une poêle avec généreusement du beurre fondu dedans, vous allez faire revenir ça de chaque côté pendant une à deux minutes. Et vous avez un délicieux pain perdu qui ne vous restera plus qu'à accommoder avec... Donc là, les bouches sucrées, ça va être soit du sucre, de la cassonade, de la pâte à tartiner, de la confiture. Et puis, comme on le disait, pour les versions salées, plutôt du fromage, du jambon. Ou d'autres.
Je ne savais même pas que ça existait en version salée.
Ah si, ça marche vraiment très très bien. Je vous conseille d'essayer ça, c'est vraiment top.
Bon, on va mettre la recette sur les réseaux sociaux de Nous Voilà Bien. Merci beaucoup de nous avoir fait replonger en enfance comme ça, Ligori Lecomte.
Mais merci à vous.
Et puis je rappelle, et je conseille d'ailleurs à nos auditeurs d'aller découvrir le site cuisineaz.com où vous êtes auteur culinaire et chef. Merci Ligori Lecomte.
Merci à vous.
Vous voulez que je vous en fasse?
Ah ben oui, je suis venu pour ça.
Alors, vous êtes venu pour les bisous. Ah mais c'est dingue, votre fidélité comme ça, hein? Tout ça pour un bisou, c'est dingue.
Voilà. Je suis venu juste pour ça.
Je vous embrasse Ligori, prenez soin
merci
de vous.
Beaucoup,
à bientôt sur RTL. Nous voilà bien, c'est donc fini pour aujourd'hui. En attendant de nous retrouver la semaine prochaine, hein, vous pouvez réécouter cette émission ainsi que toutes les précédentes en replay sur RTL.fr et les plateformes dédiées. Je vous donne rendez-vous lundi dès 14h30 sur RTL pour En effet pour s'entendre, c'est le magazine du partage et de la réflexion. Et puis à samedi prochain pour un nouveau numéro de Nous voilà bien. Prenez soin de vous et des autres. Passez un très bon week-end à l'écoute d'RTL. Je vous embrasse.